Abdelilah Laloui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes français, votre mère est d'origine kabyle, votre père français d'origine algérienne. Vous avez passé votre enfance d'abord dans une banlieue à Lille, puis en banlieue parisienne dans le 9-4. Alors aujourd'hui, vous êtes étudiant à Sciences Po. Dans un monde idéal, vous n'auriez pas eu besoin d'écrire ce livre. Mais vous l'avez fait parce que votre cas est rare, celui d'un garçon issu de l'immigration, vivant dans une banlieue et qui finit par intégrer Sciences Po, qui fait donc des hautes études. Qu'est-ce que ça vous a fait d'écrire ce livre? Quelle impression?
Ça m'a permis de prendre beaucoup de recul sur ces inégalités que j'ai vécues inconsciemment, que d'autres étudiants continuent à vivre, d'autres élèves continuent à vivre, à subir. Ça m'a aussi permis d'objectiver tout ça et de dire, bon voilà, j'aimerais qu'on puisse avancer sur cette question, qu'on puisse travailler sur cette question avec l'association et qu'on puisse aussi travailler avec ce livre sur ces inégalités, y mettre des mots parce que voilà, je pense que c'est important et qu'on peut dépasser ces inégalités.
Dans votre parcours, il y a des difficultés nombreuses, le milieu, là vous en avez parlé, mais aussi vous-même, vos aptitudes, votre caractère. À l'école, vous n'aimez pas le foot, pas trop le rap, donc c'est déjà pas trop facile de s'intégrer. Et puis vous parlez bien français, vous avez un français assez élaboré, et du coup on vous écarte et c'est très dur, dès le début.
Une sorte, ouais, une première, finalement, là, c'est la première exclusion dans le livre que je vis, une exclusion qui est à l'opposé de celle que je vais vivre par la suite dans le livre, et je me rends compte que ces inégalités en banlieue, donc cette exclusion, cette discrimination, sera plus tard l'objet d'une autre discrimination, celle de mon retard, du retard que j'ai accumulé, et surtout, en prenant du recul, encore une fois, c'est aussi l'objet de la discrimination que ces jeunes subissent, en fait. Que ces jeunes qui m'ont discriminé pour des choses telles que, enfin, le langage, les références culturelles, artistiques, etc., qui se retrouvent plus tard dans la société, dans le monde du travail, dans les études supérieures, discriminés pour ce manque et pour se laisser aller.
Alors les scènes de l'école sont très très dures, hein. Je laisserai les auditeurs le trouver, mais bon, c'est malheureusement la réalité. Heureusement, il y a des rencontres comme dans tout parcours, des rencontres, une prof de français, un bibliothécaire d'origine arabe, ce qui vous rassure à ce moment-là, et puis une émission de télévision où vous apprenez qu'un livre peut changer la vie. Ça, c'est formidable, ça.
Ouais.
C'est comme un déclic, en fait.
C'est ça, mais c'est le cas encore. Ce livre dont je parle dans le livre a changé ma vie. Aujourd'hui, j'en écris un.
Alors, on va dire
Et
quel livre c'est, hein.
quel livre? Lettre à un jeune poète. Oui.
Voilà.
Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, qui, à un moment dans ma vie justement que j'ai décrit au collège, un moment où je doute complètement de moi, j'ai l'impression de ne pas du tout, de ne pas être capable. Ça peut paraître complètement, ça peut paraître anecdotique, mais où j'ai l'impression de ne pas pouvoir concevoir une pensée, que j'ai pas les capacités de réfléchir par moi-même. À ce moment où voilà, je doutais énormément de moi et de mes capacités intellectuelles, Rilke arrive et me dit, il n'y a qu'un seul chemin, rentre en toi-même, prête attention à ta propre pensée, enferme-toi dans une sorte de bulle, et puis en parallèle, j'ai ma chambre, j'achète ma chambre à mon frère. C'est une scène que je décris dans le livre. Et finalement, je reçois complètement ce livre et je reçois complètement les propos de Rilke par l'intermédiaire d'Amélie Nothomb, qui, dans cette émission, justement, dit que, voilà, à 17 ans, l'être un jeune poète lui a changé la vie. C'est vrai que c'est un concept qui me paraissait complètement abstrait, complètement à milieu de ce que je vivais à cette époque, et ça m'a complètement, ça m'a bousculé et ça m'a ramené à ma curiosité, en fait.
Alors vous allez assez vite et assez loin puisque vous fondez une association qui fait la promotion de la culture, une association qui existe toujours, qui est active toujours, tous curieux, et en fait c'est votre premier fait d'armes, donc en fait vous réagissez quand même très vite, très bien.
C'est ça.
Et puis donc vous finissez par préparer le concours d'entrée de Sciences Po, succès, vous intégrez Sciences Po, parcours CEP on dit, c'est ça?
Oui, c'est ça.
C'est ça? Ce qui veut dire
la convention éducation prioritaire.
Voilà. Et là, on se dit, bah, c'est formidable pour vous, ça y est. Et puis, en fait, pas du tout. C'est très dur. Trouver dans un monde où vous n'avez pas les codes. C'est quoi ne pas avoir les codes?
Ne pas avoir les codes, c'est être complètement intimidé par des codes sociaux dans des situations où il n'est pas du tout question de ça. Donc, on est dans une grande école, on n'a pas à se soucier de savoir comment je vais m'habiller ou pas. On va là-bas pour étudier. Et malheureusement, dans la réalité, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. On peut avoir la bonne intention, mais on va être renvoyé à sa manière de s'habiller, à la manière dont de s'exprimer. Donc, on a beau, encore une fois, bien s'exprimer en banlieue, mais lorsqu'on arrive, on se rend compte, en fait, que toute notre enfance, on a eu, on s'exprimait d'une certaine manière, parfois on avait l'habitude, de parler en argot, qu'on avait des syllabes qu'on exprimait, qu'on avalait, etc. Et toutes ces choses-là, et on a l'impression que c'est une montagne, toutes ces choses-là nous bloquent et nous empêche d'accéder à l'évidence. Et l'évidence, c'est ce que j'essaye de dessiner dans tout le livre, c'est l'art, la culture, c'est dès le premier mot jusqu'à la fin, ce qui me construit, ce qui me façonne, les musiques, les tableaux, etc., qui au départ m'intimident et ensuite qui se retrouvent très proche de moi parce que j'ai réussi à dépasser cet imaginaire des baskets et du costume, ces inégalités sociales et ces codes sociaux qui m'ont complètement bousculé à Sciences Po parce que j'avais pas les moyens, parce que j'avais pas les bons habits, puisque j'avais pas le bon appart, etc.
Il y a un sentiment qui revient quand même souvent dans le livre, que ça soit au début, au collège, plus tard, et à Sciences Po, bah, c'est la honte, en fait.
La honte.
Comment
ouais.
on en sort de la honte?
On en sort par, je pense, en tout cas dans le récit, j'en sors tout simplement en reconnaissant ma propre culture, en disant, bon, bah, je viens de là, je tends vers ça. J'ai cette culture, elle m'a façonné et elle me constitue aujourd'hui. Et surtout prendre conscience, bah, tout simplement de sa curiosité et de se dire que finalement, on a cette aptitude, tout le monde a la même. On n'est pas plus bête que les autres et on n'a pas à avoir honte de ne pas savoir telle ou telle chose et de s'intéresser à des choses en particulier. On n'a pas à avoir honte de notre propre culture, on n'a pas à avoir honte de toutes ces choses-là. Donc finalement, tout simplement en comparant, en fait, en mettant en perspective cette honte à quelque chose d'évident, c'est la curiosité et ce qu'on est.
Qu'est-ce qui a changé finalement? Est-ce que c'est le regard des autres sur vous qui a changé ou bien est-ce que c'est vous-même qui avez changé de regard sur vous-même?
Ah, je dirais que c'est une bonne question. Je dirais que c'est moi qui ai changé de regard sur moi-même. Parce que c'est vrai qu'en arrivant en première année à Sciences Po, je me perdais beaucoup, je savais pas, c'est normal, mais je me retrouvais entre deux milieux sociaux, je savais pas à quel milieu social appartenir, à Sciences Po, voilà, on nous parle beaucoup d'exigences, de ce qu'on fera plus tard, etc. Et en même temps, bah, on vit quand même encore avec sa famille et on est bousculé. Et puis, finalement, mon regard, en fait, c'est petit à petit, je me suis finalement rendu compte que j'étais un jeune de banlieue qui avait réussi à accéder à une grande école et que ça me constituait, que j'étais, mais comme tous les individus, unique et que je devais accepter mes individualités dans leurs entièretés. Et finalement, mon regard a changé de cette manière et le regard des autres aussi, puisque c'est l'inverse qui se produit maintenant. Donc j'écris un livre, je me retrouve à faire la promotion et à Sciences Po, c'est le regard complètement, c'est un regard inverse un peu. Enfin, qui se retourne et donc finalement je me retrouve à parler de codes qui m'ont écrasé, mais maintenant je suis de l'autre côté. Donc c'est assez drôle.
C'est un peu vertigineux, non ?
C'est un peu vertigineux, ouais. Donc voilà, je dirais que finalement, mais toujours en essayant de rester en dehors des codes, même si j'en fais quand même un peu partie, mais je pense que le plus important, c'est voilà de moi-même avoir pu changer de regard sur ce que j'ai fait sur moi-même, sur mon profil.
Sacré parcours, bravo, à découvrir. Donc Abdelilah Lalouie, c'est les baskets et le costume, c'est sorti aux éditions Lattès. Merci.
Merci.